RCF.
h 10, vous êtes sur RCF le 18-19 en région. Jean-Pierre Benoît, Alexis Claudretz.
Le magazine régional avec RCF Cœur de Champagne, RCF Reims-Ardennes. Bonsoir Alexis.
Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir à toutes et à tous. Il y a du monde aujourd'hui.
Absolument, et du monde que l'on connaît bien entendu. Fernand Tavares, on vous retrouve dans un instant pour parler politique parce qu'il y a des rebondissements peut-être qui se préparent. Et puis Kylian qui termine son stage, il nous en parlera tout à l'heure. Et puis la venue d'Arnaud Valadon que vous avez bien connu si vous êtes auditrice et auditeur de RCF jusqu'en 2017.
Mais à chaque fois qu'on le revoit, Jean-Pierre, il arrive, il a toujours une Coupe du Monde en plus dans ses poches.
Et oui,
je me demande où il les met.
Il a les Jeux Olympiques en préparation pour 2024, il nous en parlera, puisqu'il suit beaucoup de matchs, de compétitions. Il était en Norvège il n'y a pas très longtemps. Il nous en parlera, ses expériences à l'étranger, tout ça, bien, ça nous fait oublier, au contraire, qu'il était il y a 6 ans encore sur les routes de notre diocèse en Champagne-Ardenne, du côté de Rethel. Ça vous fait quelque chose de revenir dans ce studio ?
Bonjour à tous. Bah toujours, c'est là où tout a commencé. 2007, première émission Sportiplex. Ça commence à faire, hein ? 15
oui,
ans. 16 ans même.
16 ans. Et puis jusqu'en 2017, où vous partez à BFM TV et RMC Sport. Et depuis, bon, ça fait déjà aussi 6 ans dans ces antennes
ça
nationales.
Ça continue, mais on revient tous les ans avec grand plaisir. Et à la fois du changement, mais on retrouve... toujours des petites choses, les mêmes têtes, hein, Jean-Pierre.
Et oui, et puis et les chroniques qui reviennent, parce que les chroniques aussi, il y a les têtes, et puis il y a aussi les chroniques. Alors justement, Alexis, on a des rendez-vous avec vous qu'on va suivre, en particulier avec Gérard-Marie Henry. C'est votre chronique économique, on vous retrouve, Alexis.
La question d'économie, c'est avec Gérard-Marie Henry. Bonjour.
Bonjour Alexis, bonjour tout le monde.
Gérard-Marie Henry, en cette période de fête, c'est une bonne nouvelle en Angleterre avec les véhicules électriques.
Oui, une bonne nouvelle parce que le grand constructeur japonais, Nissan, qui construit des voitures en Grande-Bretagne, si vous achetez un cache-cache, vous avez une voiture qui est faite en Grande-Bretagne, bah, ce constructeur japonais vient de décider d'augmenter sa présence dans son usine de Grande-Bretagne. Enfin, il va faire un investissement assez important et pour produire uniquement des voitures électrique. Alors ça paraît sympathique, les Anglais sont très contents, le Premier ministre anglais est vraiment joyeux, parce que on pouvait se demander si les constructeurs internationaux allaient continuer à développer leurs affaires en Grande-Bretagne, puisqu'elle ne fait plus partie de l'Union européenne, et donc c'est considéré comme un pays qui est hors de l'Union européenne, et qui peut donc subir des droits de douane sur ses produits qu'il exporte. C'est ça la grosse question. Donc des voitures qui partaient de Grande-Bretagne allaient être taxées en arrivant sur le marché européen, et donc ça rendait leur compétitivité beaucoup moins bonne, et donc est-ce que ça valait le coup pour eux de continuer à faire des voitures là-bas? Et donc là, on a vraiment une décision du constructeur japonais qui paraît assez audacieuse, sauf que dans les quelques jours suivants, on a appris que justement l'Union européenne avait décidé de ne plus mettre en œuvre cette barrière douanière en disant les voitures électriques qui viennent d'Union européenne, qui sont construites par exemple par Renault ou par Peugeot, quand elles arrivent en Grande-Bretagne, elles devraient elles aussi être taxées, dans les deux côtés on taxe, si les Anglais ne taxent pas, nous on ne taxera pas les voitures qui viennent de Grande-Bretagne. Donc c'est une grosse décision de rester dans le niveau de libre-échange qu'on avait avant le Brexit. Les voitures qui passent d'un côté à l'autre ne vont pas subir des droits de douane qui pouvaient aller jusqu'à 20%. Ça change complètement la donne. Si vous avez une voiture qui vaut 20% de plus, c'est pas celle-là que vous allez acheter. Et donc on a la décision de Nissan, c'est une sorte de coïncidence, la décision de Nissan qui paraissait surprenante. En fait, ils avaient dû avoir l'oreille proche de Bruxelles pour savoir qu'il y avait dans les tuyaux une décision majeure. Alors c'est une décision temporaire, je crois que c'est seulement pour quelques années, mais vous comprenez bien que c'est quelque chose qui va après être renouvelé, et donc qui va permettre aux constructeurs européens, qu'ils soient en Grande-Bretagne ou en Europe continentale, d'essayer de développer des usines de batterie, par exemple, pour ne plus dépendre des productions chinoises, puisque pour l'instant, quand vous achetez une voiture électrique, en fait, c'est une voiture électrique chinoise, quoi. Le gros morceau de la voiture, 40% de son prix, c'est une batterie qui vient de Chine. Et le reste, c'est un petit peu de l'entourage, mais le cœur du produit produit est quand même vraiment chinois. Et donc, ce qu'on aimerait bien en Europe, que ce soit en Europe continentale ou en Grande-Bretagne, c'est à terme avoir des constructeurs de batteries qui permettent d'échapper à cette domination chinoise. Et pour qu'il y en ait, il faut que les Européens produisent beaucoup de voitures. Et s'ils en produisent beaucoup, ils vont pouvoir aider ces constructeurs de batteries à pouvoir percer. Et donc, la bonne solution, c'était d'éviter qu'il y ait des blocages entre le continent, l'Union Européenne et la Grande-Bretagne. Et là, on est dans la bonne direction.
On est dans la bonne direction, Gérard-Marie Henry, à la fois grâce au gouvernement britannique, mais aussi grâce à Nissan, qui, j'ose le dire, a l'audace de rester sur le territoire britannique.
Ah oui, absolument, absolument. Mais une audace qui maintenant paraît moins audacieuse, puisqu'il sait que les voitures qu'il va produire vont rentrer dans un truc de libre-échange et ne vont pas être taxées. Donc, comme il a déjà une usine là-bas, qu'il a du personnel qualifié, etc., c'est pas plus bête de continuer à faire fonctionner cette usine, même en l'agrandissant et en la modifiant pour qu'elle passe des voitures à moteur thermique à des voitures à moteur électrique. Et donc, il va gagner. Mais en même temps, Renault, Stellantis, etc., tous les constructeurs européens, et je ne parle pas des constructeurs allemands, vont aussi y gagner, puisque sur le marché anglais, leurs voitures ne vont pas être pénalisées par des droits de douane anglais.
Et est-ce qu'il peut y avoir une réduction des coûts à l'achat au-delà de cette affaire des droits de douane? Est-ce que le fait que ce soit produit plus près de chez nous, Gérard-Marie Henry, peut permettre de réduire le prix d'achat neuf d'un véhicule?
Non, ce qui peut arriver à faire à terme, c'est qu'au lieu d'avoir des voitures qui sont faites par Renault, par Nissan ou d'autres, avec des batteries électriques qui viennent de Chine, ça soit des batteries électriques qui soient faites localement. Et peut-être que là, ça donnerait une marge de manœuvre supplémentaire aux constructeurs. Ne plus dépendre de fournisseurs chinois qui, en fait, sont les seuls et donc peuvent exiger des prix élevés. J'ai pas encore vraiment regardé le sujet, mais je suppose que, étant les seuls sur le marché, peuvent dire, si vous n'en voulez pas, vous ne voulez pas payer, vous n'en aurez pas. Tandis que là, on aurait la possibilité d'avoir des fournisseurs concurrents européens à ces fournisseurs chinois, et donc on pourrait avoir peut-être une baisse des prix, puisque c'est le morceau, en fait, le plus important dans une voiture électrique. C'est vraiment le coût de la batterie qui fait la grosse décision du prix total.
Alors justement, puisque l'on parle du coût de la batterie, Gérard-Marie Henry, la transition, il faut qu'elle se fasse en douceur, on ne peut pas tout changer du jour au lendemain.
Ah ben non, et le risque, vous le savez, c'est la grosse casse dans l'industrie automobile, puisque pour faire une voiture électrique, c'est beaucoup moins compliqué que de faire une voiture avec un moteur à essence, un moteur thermique. Il n'y a plus de pot d'échappement, il y a plein de trucs qui n'existent plus. Il y a la grosse batterie, un moteur électrique, c'est très simple, et puis le reste, les quatre roues, etc. Donc il va y avoir, pour le même nombre de voitures, si on suppose qu'on est en 2030 et qu'en 2030 on fasse beaucoup plus de voitures électriques, pour un même nombre de voitures, on aura besoin de moins de personnel. Et donc les constructeurs vont avoir à gérer cette réduction du nombre de gens nécessaires. Et c'est pour ça que dans certains endroits, je pense surtout aux États-Unis, les syndicats de l'automobile, les syndicats ouvriers ont fait grève pour que les entreprises disent dès maintenant, même s'il y a des changements, on passe aux voitures électriques, on gardera le même personnel, on l'emploiera autrement, etc. Mais pour être sûr qu'ils ne vont pas disparaître, rabotés par le changement technologique.
Pour rester dans le thème de l'automobile, Gérard-Marie Henry, est-ce que l'on peut dire que l'ensemble de ces décisions, comme l'a dit d'ailleurs le producteur suédois de batterie Northvolt, que cette décision, finalement, elle va donner à l'Europe un avantage concurrentiel dans la course vers les batteries circulaires plus durables? Est-ce qu'on peut dire que l'Europe est en pole position, Gérard-Marie Henry?
De loin, pas encore, mais en fait, les décisions qui s'accumulent depuis à peu près un an et demi, deux ans, montre qu'on va avoir peut-être, à partir de 2025, 2028, on aura des concurrents européens aux producteurs chinois de batteries et qu'on devrait s'en sortir. Mais bon, il y a toujours les points d'interrogation, quoi. Est-ce que, d'une part, les acheteurs vont aller vraiment vers l'électrique? On s'aperçoit que quand des constructeurs comme Jeep ont fait leur petite Jeep, on dit maintenant c'est une voiture électrique, d'un seul coup ils ont perdu 85% des consommateurs. En fait, il y a seulement 15% des voitures achetées sur notre marché français qui sont achetés en électrique. 85%, c'est les voitures de modèles thermiques anciens, rechargeables éventuellement, mais pas des voitures électriques. Donc le problème, c'est est-ce qu'il va y avoir montée en puissance des acheteurs de voitures vraiment électriques, justifiant ces dépenses qu'on fait pour les usines de batterie, etc. C'est pas encore évident, quoi. Je ne suis pas passé à l'électrique, quoi, c'est clair, et je n'envisage pas encore à court terme d'y passer.
On verra, Gérard-Marie Henry, si les constructeurs européens prennent la bonne aspiration, si le DRS est activé, tout ça, c'est pour les gens qui suivent la F1. Merci Gérard-Marie Henry d'avoir été avec nous dans cette question d'économie. On vous dit à très bientôt.
À très bientôt.
Le 18-19 sur RCF. Eh bien oui, 18h20, on va retrouver dans un instant Fernand Tavares. Alors on était là en train de dire avec Alexis Arnaud Valadon que
Bah, tous ces chroniqueurs, là, Alexis les interviews, bah, vous les interviewez vous aussi. Gérard-Marie Henry, ça faisait partie de vos chroniqueurs, j'allais dire pas favoris, mais enfin, des questions économiques.
On discutait beaucoup. Déjà, à l'époque, il était souvent parti par Mons et par Vaud, notamment dans sa Bretagne chérie. Il y avait Hot Rod aussi, qui existe toujours et que j'ai pris beaucoup de plaisir
à
écouter.
Une émission musicale, oui.
Le professeur Cohen, évidemment, tous ces chroniqueurs. Jacques Terray.
Claude Ruiz, bien entendu.
Claude Ruiz, Jean-François Boulanger. Qui m'avait eu comme élève en licence d'histoire lors de mon modeste passage. Mais ben, j'avais beaucoup aimé Jean-François Boulanger comme professeur.
Et le dernier séjour, c'était où à l'étranger, puisque on parlait de
là,
ça.
Là, je suis revenu lundi de Norvège et Danemark où il y avait du handball.
Et la France s'est bien comportée.
L'équipe de France féminine est terminée championne du monde, la troisième étoile. Donc c'est bien, 7 mois des Jeux Olympiques de Paris, c'est quand même le gros événement à venir et elles ont un titre à défendre.
On aura l'occasion d'y revenir, Arnaud Valadon, 18h20 avec vous, Fernand Tavares. Vous avez suivi ce qui se passe à l'Assemblée nationale et au Sénat, vous nous en parlez hier. Vous avez écouté le président de la République sur C'est à vous, c'était hier, sur France 5. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Où va-t-on?
Alors, d'abord, en observant le président de la République hier, on a trouvé qu'il était dans des conditions particulières, c'est-à-dire qu'il était très décontracté, très ouvert, recevant toutes les questions, quelles qu'elles soient, dans n'importe quel ordre, et ne s'offusquant de rien, même des plaisanteries les plus graveleuses parfois. Donc il s'est prêté au jeu. C'est une bonne émission pour son image de marque. Évidemment, la plus grande partie des interviews a été consacrée à la fameuse loi sur l'immigration. Là-dessus, je l'ai trouvé particulièrement détendu, disant presque qu'il ne comprenait pas pourquoi, ici ou là, on s'affolait, d'autant que cette loi sur l'immigration comportait des points que tout le monde attendait, qui n'étaient pas du tout du fait du Rassemblement national, mais qui était le fruit d'une cogitation entre les membres de la majorité présidentielle, majorité relative s'il en est. Bon, à partir de là, il a dit maintenant, voilà, rien ne me choque trop, bon, peut-être qu'il y a une ou deux choses qui sont un petit peu sensibles aux uns et aux autres, mais, comme je l'ai dit hier soir, j'ai saisi le Conseil constitutionnel. C'est le Conseil constitutionnel qui va examiner tous les articles 1 à 1. Il a un mois pour le faire, vous voyez. Et à partir de là, s'il y a une ou deux ou trois choses qui sont censurées, eh bien, nous l'appliquerons sans problème. Évidemment, la question que nous nous sommes posée hier soir et que je me suis posée parce que, en d'autres temps, avec d'autres présidents de la République, ça a déjà été le cas, y compris d'ailleurs avec François Mitterrand, avec Jacques Chirac et bien d'autres, c'est que, à partir du moment où on a un projet de loi dont on sait qu'il risque de passer ou de ne pas passer, même de justesse, on se pose un certain nombre de questions. Et on se dit, bon, dans ma loi, je vais peut-être forcer le trait sur telle ou telle chose, parce que dans les groupes politiques au Sénat ou à l'Assemblée, ils y seront sensibles. Et si je force pas là-dessus, ça ne passera pas. Donc on peut imaginer que le gouvernement s'est finalement rendu aux décisions de la majorité sénatoriale, à un certain nombre de décisions, pas toutes, pour de temps en temps durcir tel ou tel article, de façon qu'à l'Assemblée nationale, le groupe Les Républicains, non pas s'incline, mais admette que les choses sont un petit peu plus de leur côté, ce qui a été le cas. Donc, on connaît la suite, et Emmanuel Macron a dit hier, c'est le succès de la majorité présidentielle, même une majorité relative, vous voyez bien que ça peut fonctionner. On n'a pas eu besoin des voix du Rassemblement national. Je le répète aujourd'hui, certes, ils n'ont pas eu besoin des voix du Front national, mais il faut être objectif et dire les choses telles qu'elles sont. Si le Rassemblement national avait voté contre le projet de loi, eh bien Emmanuel Macron et ses troupes n'auraient pas eu la majorité, tout simplement parce que, en plus, au sein de ses amis du groupe Renaissance, il y a eu quelques états d'âme, si j'ose dire, qui ressemblent fort à un groupe de frondeurs du temps de François Hollande, au sein du Parti Socialiste. Donc, les choses sont ainsi. Voilà. Donc, encore une fois, le coup du Rassemblement national, il a voulu l'évacuer, mais attention, car encore une fois, le Rassemblement national, les 80 députés, s'ils avaient voté contre la loi, ça ne serait pas passé. Ils ont voté pour, évidemment. Si c'était abstenu, eh bien, ça serait passé quand même.
Mais alors, Fernand, l'avenir, c'est vrai qu'à un moment donné, vous dites Conseil constitutionnel, oui. Il a un mois. Si on fait le petit calcul, on est le 21 décembre. Un mois, c'est le 21 janvier.
Il y a les fêtes, hein.
C'était l'exécution de Louis XVI, mais enfin, bon, le 21 janvier. Mais il peut y avoir, à fin janvier, une fois que le Conseil constitutionnel se sera déterminé, peut-être l'occasion d'une relance par le gouvernement d'une nouvelle politique et peut-être d'un nouveau gouvernement.
Oui, alors quand on dit un mois pour le Conseil constitutionnel, de façon à dire si toutes les dispositions de la loi sont véritablement constitutionnelles ou s'il faut en censurer, quand je dis un mois, c'est un mois au maximum. Ça peut être fait dans 15 jours. Il appartient aux membres du Conseil constitutionnel de se réunir et de voir si ça peut se faire plus ou moins vite.
Vous qui avez eu l'habitude de voir comment ça se passait au niveau des... Vous pensez qu'il va y avoir un remaniement, vous ?
Alors, il y a un indice tout de même. C'est que le ministre de la Santé, dont la démission a été acceptée, est remplacé par une ministre de la Santé. Mais j'ai noté qu'il est bien indiqué que c'était une ministre par intérim. Donc, une ministre qui assure... L'intérim d'un ministre, ça veut dire que dans quelque temps, il y aura un titulaire.
Et vous avez l'idée d'être titulaire ? Est-ce que ce poste, il est à pourvoir au niveau national ? Il y a des prétendants ?
Bah évidemment, on pense, c'est bien, puisque nous sommes en Champagne-Ardenne et en particulier à Reims, on pense, parce qu'on en parle depuis des mois et des mois, sinon des années, au maire de Reims, Arnaud Robinet, qui est un petit peu sur la sellette et qui espère, en tant que bras droit, si j'ose dire, ou un des bras droits, si j'ose dire aussi, du maire du Havre et de l'ancien Premier ministre, c'est pas exclu que dans la perspective où Emmanuel Macron, comme il a dit hier, ne se représentera pas, mais a-t-il dit, il n'est pas question que je quitte mon poste, j'ai encore 3 ans et demi à faire, je ferai mes 3 ans et demi, j'irai jusqu'au bout. Voilà. Donc, alors, Arnaud Robinet a-t-il des chances ou une chance, comme on le dit depuis des mois et des mois, de devenir un jour ministre de la Santé ? Certains disent qu'il y pense, que c'est son rêve. Il est pas mal placé depuis qu'il a pris les rênes des fédérations hospitalières de France. C'est vrai que c'est important parce que dans les milieux hospitaliers, maintenant, il est connu de tout le monde. Est-ce qu'il est apprécié ? Ça reste évidemment à analyser et à voir. On n'a jamais entendu dire du mal de ce qu'il a fait, de ses démarches. Il a pris la défense de tous les CHU. Il fait ce qu'il faut, par exemple, pour rénover sérieusement et de reconstruire le CHU de Reims. C'est quelque chose. Donc, il est en pointe. Sa formation n'est pas une formation de médecin. C'est souvent ce qui s'est dit. C'est une formation de scientifique, il est docteur quand même en sciences, et il connaît bien le milieu de la pharmacie, peut-être plus. Ça n'est pas exclu qu'il puisse devenir ministre de la Santé.
Voilà. Bah,
d'ailleurs, le ministre par intérim, la ministre par intérim aujourd'hui, du ministère de la Santé, Madame Le Bonneau, est une pharmacienne. Alors
on verra, on suivra ça de près. Votre pronostic, donc, Fernand, c'est que c'est... possible. Et puis, on sent bien que il le souhaite, hein, Arnaud Robinet.
Oui, mais bon, je suppose qu'il y a plusieurs...
Certainement plusieurs candidats. Voilà. On aura l'occasion d'en reparler. On vous retrouve tout à l'heure, ou je ne sais pas si on aura le temps, mais dans une poignée de minutes en tout cas. Il est 18h28. Vous ne gérez pas à BFM et à RMC. Souvent, vous n'êtes pas sur les affaires politiques, vous restez dans le sport.
Mais le sport est politique.
Ah oui.
Enfin,
ah
ça
bah
dépend
oui.
de certains.
Ah oui.
Non, je suis très bien au sport. Mais ça ne m'empêche pas, il y a 2 mois, j'étais à l'Élysée puisqu'il y avait une réception, Emmanuel Macron qui recevait notamment des athlètes, donc on était dans la salle des fêtes. Je suis déjà allé à l'Assemblée nationale puisqu'il y avait un moment une démonstration de sport en vue des JO avec des jeunes. Il y avait la présidente de l'Assemblée nationale, Madame Braun-Pivet, et la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. Donc on est amené à côtoyer évidemment le milieu politique, et puis ça vous a pas échappé récemment tous ces problèmes de supporters dans les stades, et l'exécutif s'est emparé du sujet. Donc on est amené évidemment à traiter quelque part de la politique, mais le sport est assez transversal. Il y a de l'économie, il y a de la politique, il y a différents. Il y a la santé aussi quand un joueur se blesse.
Et hier, Emmanuel Macron a parlé de Mbappé.
Il a parlé de Mbappé, il a parlé des Jeux aussi, où il a dit qu'il y avait un plan B pour la cérémonie d'ouverture. Vous savez, des Jeux Olympiques, ça sera normalement sur la Seine, mais si le contexte, notamment en matière sécuritaire, venait à se tendre et s'il y avait des menaces. D'attentat, il pourrait y avoir un plan B. C'est d'ailleurs la première fois qu'on entend parler d'un plan B pour
voilà,
la cérémonie d'ouverture.
Président tout-terrain et multicarte.
Eh ben, écoutez, affaire à suivre, comme on dit. Ce sera l'occasion pour nous d'en reparler sur RCF. À noter dans notre agenda que demain, nous recevrons en direct Mgr Éric de Moulin-Beaufort. Bonne transition quand même, parce qu'il est l'invité de Sportimag. Il répond à des questions sportives.
Ça sera ce soir, vers 19h45.
Vers 19h45.
Le lien entre sport et chrétien, voilà. Deuxième épisode.
Eh bien, nous aurons l'occasion de l'écouter. En attendant, puisqu'il est 18h30, c'est l'heure de retrouver le journal régional avec Alexis Claudrez qui est en direct avec nous.
«
Avec les titres de ce jeudi 21 décembre 2023, le service de médecine post-urgence de Sedan a rouvert ses portes il y a quelques jours, focus sur les nouveaux aménagements. Afin de poursuivre son développement et accueillir à terme 500 étudiants, l'EPF École d'ingénieurs à Troyes a doublé sa superficie.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
On parlait médecine tout à l'heure, avec le taux d'incidence du Covid en hausse en France, le port du masque devient de nouveau obligatoire dans un certain nombre de secteurs d'activité, et notamment pour les agents du centre hospitalier intercommunal Nord-Ardenne en contact avec les patients, mais aussi pour les visiteurs et les patients en consultation. Une décision contraignante nécessaire pour que les sites hospitaliers de Charleville-Mézières, Fumay, Nouzonville et Sedan ne soient pas en tension. Par ailleurs, cette nouvelle réglementation ne s'applique pas aux patients hospitalisés, aux résidents des EHPAD et unités de soins longue durée. Et puisque nous y sommes, on y reste au centre intercommunal Nord-Ardenne. Après un an de travaux, le service de médecine post-urgence de Sedan a rouvert ses portes il y a 2 semaines maintenant et accueilli ses premiers patients. Le projet, construit en équipe avec les médecins, infirmiers, aides-soignants et agents techniques, permet d'offrir de meilleures conditions d'accueil des patients, mais aussi de meilleures conditions de travail des agents. Concrètement, les personnels ne doivent pas s'adapter aux locaux, ce sont les locaux qui sont adaptés aux personnels. Vincent Belleville, directeur des services techniques du centre hospitalier Nord-Ardenne.
Je pense notamment à la configuration du service qui est en espèce de U, on va dire, où le personnel autrefois était obligé de faire le tour pour pouvoir accéder dans des locaux de stockage, locaux de linge, locaux de stockage de dispositifs médicaux, donc obligé de faire le tour quand on se trouvait sur l'autre aile. Donc on a un accès de chaque côté et une configuration qui est vraiment adaptée pour faire en sorte que, une fois la visite faite, les chariots arrivent dans la salle et il y a une adaptation d'un poste de travail central qui a vraiment été réfléchi avec les équipes pour optimiser les circulations et optimiser les espaces. On a également la mise en place dans chacune des chambres de rails de levage qui remplacent les lèvres malades qui autrefois, pour dire les choses, passaient d'une chambre à l'autre. Là, mais vous avez un dispositif qui est affecté en plafonnier dans une chambre et qui permet à la fois de faire de la manutention des patients, faire aussi de la pesée, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de promener un matériel d'une chambre à une autre.
Une remise à neuf avec le bâtimentaire, mais également le mobilier. L'ensemble représente un coût d'1,2 million d'euros, intégralement financé par des fonds européens dans le cadre d'un appel à candidature en matière de résilience des services hospitaliers. Objectif de ces rénovations, réduire la propagation des risques, notamment lors de crises pandémiques comme celle du Covid. Afin d'éviter les brassages d'air de climatisation mobile en été, une enveloppe supplémentaire a permis l'installation dans chaque chambre de refroidisseurs d'air grâce à un réseau d'eau glacée. Vincent Belleviseau.
Là, clairement, en fait, on a utilisé une partie des fonds européens, donc, pour faire un rafraîchissement des locaux par le biais de ce qu'on appelle des réseaux d'eau glacée. On avait une centrale de réseau d'eau glacée qui existait sur le site et on est venu connecter l'intégralité du bâtiment. Donc, le rafraîchissement, donc, qui est une enveloppe supplémentaire. Tout à l'heure, je vous parlais de la réfection de l'étage et les équipements, c'est environ 1 200 000 euros. Le rafraîchissement, c'est pratiquement 400 000 euros pour l'intégralité du bâtiment, quoi.
Après le premier étage du bâtiment destiné au service de médecine rénové en 2019 et le troisième étage qui vient d'être refait à neuf, place dès janvier à la rénovation complète du deuxième étage, la médecine gériatrique, des travaux qui vont à leur tour durer 1 année et qui seront eux financés par d'autres fonds pour un coût total d'1 million d'euros. C'est la question qui chaque année taraude les parents d'élèves en terminale ou jeunes en réorientation. Quand ouvre Parcoursup ? Depuis hier, les lycéens peuvent trouver les différentes formations sur la plateforme et se renseigner. Ils pourront formuler leurs vœux à partir du 17 janvier jusqu'au 14 mars. Ils auront ensuite jusqu'au 3 avril pour finaliser leur dossier. La phase d'admission principale débutera le 30 mai et se prolongera jusqu'au 12 juillet. Installée depuis 2014 à côté de l'UTT à Rosières près Troyes dans l'Aube, l'école d'ingénieurs généralistes et polytechniques EPF s'agrandit. Objectif, doubler le nombre d'étudiants pour arriver à 500, comme nous l'explique le président du conseil départemental de l'Aube, Philippe Picherie.
À l'époque, le constat était fait que, avec la crise de l'emploi sur le textile, il fallait refonder l'économie auboise et tous les spécialistes indiquaient que c'était par la science, par l'enseignement supérieur que l'on pouvait stimuler cette action. Après l'université de technologie de Troyes, il a été accueilli des nouveaux sites et des campus d'écoles d'ingénieurs prestigieuses qui sont sur Paris et son agglomération, je veux parler de l'EPF, de l'ESTP. L'EPF qui s'est implanté à Troyes a eu un vrai succès par rapport aux étudiants qui affectionnent ce cadre de vie et le coût de la vie moins cher que sur Paris. Après avoir consolidé la première implantation, il a été considéré qu'on pouvait passer une phase supérieure qui nous conduira de passer de 250 à 500 ingénieurs, élèves ingénieurs accueillis chaque année.
Des propos recueillis au micro RCF Cœur de Champagne de Christopher Fausten. L'extension de l'EPF a été inaugurée le 12 décembre. Ce campus s'insère dans une démarche durable et responsable vis-à-vis de l'environnement. Le bioclimatisme est ainsi à l'honneur avec une façade en débord à l'étage, limitant les apports solaires en été ainsi que le renouvelable grâce au photovoltaïque. Le coût total de l'opération s'élève à 12,2 millions d'euros partagés entre l'agglomération troyenne, le département de l'Aube et la région Grand Est. À 18h30, une page sport, football, le Stade de Reims passera l'hiver au chaud à la 8e place de Ligue 1 pour leur dernière de l'année 2023. Les Rémois ont dominé Le Havre 1-0 hier soir sur une réalisation de Nakamura. Arnaud Valadon, journaliste RMC Sport, est avec nous en plateau. Service minimum pour les stadistes hier soir.
Oui, d'autant que Le Havre était réduit à 10 contre 11 après un carton rouge à la 21e minute et 5 minutes après le Stade de Reims a marqué. Mais les Rémois restaient dans une phase difficile. Ils n'avaient gagné qu'un match sur les 5 dernières rencontre et il se relance juste avant la trêve, de bon augure pour Will Steele. 26 points, une 8e place pour le Stade de Reims, c'est quand même un bilan plus que satisfaisant après la phase aller.
Vous parlez de Will Steele, parti pour rester ?
Il a fait un geste avec les supporters en disant « je reste ici » lors de sa communion en fin de match avec la Jonquet. Oui, il va rester. C'est vrai qu'il y a eu des rumeurs l'annonçant en Angleterre. Lui a nié. Il devrait rester au moins jusqu'à la fin de saison. Après, on ne sait pas.
Et vous continuez de suivre le basket ardennais, notamment les Flammes Carolo, Arnaud Valadon.
Les Flammes Carolo, il y avait de l'Eurocoupe, non ?
Il y avait de l'Eurocoupe.
En Vendée.
Effectivement, les Flammes Carolo qui sont éliminées de l'Eurocoupe féminine après leur défaite lors du 16e de finale retour sur le parquet de la Roche-Vendée, 78-73. Elles avaient concédé le match nul il y a une semaine à l'Arena, à la Guinguette Arena, 71 partout. Avant de refermer ce journal, vous le savez, place à la météo avec Kylian Jeannot. Kylian, bonsoir.
Bonsoir Alexis.
Avec cette question que je vous pose pour l'avant-dernière fois déjà, puisque c'est la fin de votre stage demain, quel temps dans le ciel en Champagne-Ardenne pour ce vendredi ?
Eh bien alors, pour demain, la météo sera similaire à ces derniers jours. De la pluie est attendue sur toute la Champagne-Ardenne. Dans la matinée, il fera 8 degrés pour les Ardennes, 9 degrés dans la Marne et 10 degrés dans l'Aube. Dans l'après-midi, le thermomètre affichera 10 degrés pour Rethel, 11 degrés à Saint-Dizier et 12 degrés à Nogent-sur-Seine. Je ne sais pas si vous le savez Jean-Pierre, mais demain, c'est un changement de saison. Nous serons officiellement en hiver. Et nous en profitons également pour souhaiter une bonne fête à tous les Françoises Xavier.
Merci, on va vous retrouver Kylian avec Alexis dans un instant, mais on dit toujours Noël au balcon, pas au tison. Je ne sais pas si ça va se respecter, parce que là, des températures de 8 ou 9 degrés le jour de Noël, c'est pas tout à fait mon beau sapin avec de la neige et du vin chaud. Vous êtes amateur de vin chaud, vous, Fernand ?
Il y a longtemps que j'en ai pas bu, mais à une époque, quand j'étais en Lorraine, j'aimais bien le vin chaud.
Et bien la Mirabelle aussi,
sans doute. Exactement.
Parce que on ne les pas dans quelques instants, Jean-Pierre, si vous voulez bien. On referme officiellement le journal et le 18-19 en Champagne continue.
Le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Chalon. Charleville-Mézières.
Le magazine régional, le 18-19 en Champagne-Ardenne avec Jean-Pierre Benoît, Fernand Tavares, Arnaud Valadon. Vous les retrouverez tous dans quelques instants. Mais Kylian Jeannot est avec nous. On vient de le dire à l'issue de sa météo. C'est son avant-dernier jour de stage aujourd'hui. Comment ça s'est déroulé, Kylian, cette période de stage ?
Eh oui, le temps passe si vite. Pendant ces 6 dernières semaines, j'ai eu la chance de réaliser beaucoup de missions très intéressantes et dans une bonne ambiance de travail. Je sais pas si tu te souviens, Alexis, mais j'ai eu l'opportunité de participer à l'émission Le 3QA, où j'ai dévoilé à nos auditeurs et nos auditrices ce que j'aimerais bien faire pendant ce stage. Et j'ai eu de la chance, car j'ai pu réaliser beaucoup de missions. notamment la réalisation d'un sujet pour le journal. J'ai été à la rencontre de personnes à interviewer pour réaliser une prise de son et j'ai également pu monter ces audios avant de les présenter en direct lors du 18-19 en Champagne.
Ça, ce sont les missions rédactionnelles. Est-ce que ce sont les seules activités que tu as effectuées ?
Non, c'est vrai. J'ai eu la chance de pouvoir réaliser des vidéos comme celle d'une journée type d'un stagiaire à RCF qui est maintenant disponible sur les réseaux sociaux de RCF. Cette vidéo a été réalisée avec ma petite sœur de stage, Manon Bréval, qui a dû malheureusement nous quitter car elle devait retourner en cours. J'ai aussi réalisé des montages pour des émissions qui passent sur les ondes de RCF. J'ai pu aussi participer à des conférences de presse comme celle pour le festival Faraway. J'ai également aidé Manon à la finalisation des visuels pour le Radiodon et j'ai failli oublier le plus important, la préparation et la diffusion de la météo en direct.
C'est qu'on vous ferait un petit peu bosser quand même au sein de cette rédaction de RCF. Quel a été ton moment préféré, Kylian ?
Ah, c'est pas facile à choisir. C'est vrai, j'ai passé de super moments à la radio. Mais je garde de magnifiques souvenirs des pauses déjeuner où nous rigolons comme des fous en salle de réunion.
Bon, ben, si on retient les pauses déjeuner, c'est l'essentiel. On espère que tu retiendras aussi d'autres choses de ton stage, évidemment. Outre les super moments passés en notre compagnie, est-ce que tu as quand même acquis de nouvelles compétences et appris de nouvelles choses, Kylian ?
Oui, j'ai appris beaucoup en notre compagnie. Et je tiens à préciser pour nos auditeurs que le vôtre, c'est l'équipe de RCF avec les bénévoles. J'ai appris à mener une interview et Dieu sait que ce n'est pas facile. Et je resterai en admiration devant toi et Jean-Pierre, car vous faites ça très bien. J'ai aussi appris à utiliser le logiciel de montage, à retirer tous les moments d'hésitation que nous pouvons avoir, les nombreux « e » que nous mettons dans nos phrases. Et nos auditeurs et nos auditrices ne le savent pas peut-être, mais les questions improvisées, c'est la spécialité d'Alexis Claudretz. J'ai également développé mes compétences rédactionnelles et mes compétences en élocution.
Vous le voyez, Kylian, vous dites que j'improvise des questions, mais je suis sage, je suis votre déroulé pour que vous ne soyez pas trop perturbé aujourd'hui. Un dernier petit mot peut-être à faire passer à nos auditeurs.
Je tiens à remercier chaleureusement tous les bénévoles et toute l'équipe de RCF, Jean-Pierre, Thierry, Fabrice et toi, Alexis, de m'avoir accueilli et supporté pendant ces 6 dernières semaines. Mais avant de te rendre la parole pour la fin de ce magazine et de conclure ce petit résumé pour mon stage, je souhaite faire une révélation à nos auditeurs et nos auditrices. Quand notre président directeur préféré, notre Jean-Pierre Benoît, a quelque chose de super important à nous dire, il nous appelle d'une manière originelle. Il nous dit « mon petit » avec notre prénom. Et c'est vrai qu'au cours de ces dernières semaines, j'ai pris l'habitude d'appeler Alexis comme ça. Donc, un grand merci à mon petit Alexis pour ce merveilleux stage passé en ta compagnie.
Voilà Jean-Pierre, on apprend des révélations sur toute l'équipe de RCF. C'est des révélations internes aux équipes. Merci mon petit Kylian, évidemment. Une personne dynamique, bienveillante, qui s'est parfaitement intégrée à la vie de notre équipe ici à RCF et sur notre plateau volontaire avec toutes les tâches que tu as pu effectuer, bien évidemment. Et puis, tu as construit toutes ces émissions au quotidien et rendu de fiers coups de main à l'équipe.
Et qui va poursuivre son BTS, je crois, au lycée Saint-Michel de Reims. Et puis ensuite qui quittera probablement Reims pour faire des études peut-être à l'extérieur. Ça, c'est une autre aventure.
Ah oui, et je ne compte pas quitter Reims pour le moment.
D'accord, on aura l'occasion d'y revenir.
Le 18-19 sur RCF.
18h43, Jean-Pierre.
18h43, toujours avec Fernand et toujours avec Arnaud Valadon qui nous accompagne. On disait, Arnaud, que vous suiviez l'actualité sportive. Quels sont les prochains rendez-vous ? Alors, c'est la trêve des confiseurs, c'est comme en politique avec Fernand.
Oui, c'est la trêve des confiseurs, un petit peu de repos, parce que je suis parti quand même 3 semaines loin de la maison. Donc, on se repose un petit peu. Là, pour l'instant, sur début 2024, il n'y a pas de grands déplacements, on va se calmer un petit peu. Il y a la préparation surtout des Jeux Olympiques, c'est vraiment le gros événement, l'événement phare de 2024, des JO à la maison, même quand on est journaliste, pour couvrir ça, il n'y en a qu'une fois dans une carrière. Donc, on va s'atteler à ça.
On aura l'occasion de vous suivre sur RMC Sport et sur BFM sans doute aussi.
J'espère que Sportiplex parlera des Jeux Olympiques.
Ah ben moi je sais qu'Edouard
Savard nous écoute. On pourrait peut-être couvrir les JO façon RCF. Ah ben Jean-Pierre, vous ne voyez pas commenter
les
JO.
Avec un terre de jeu, avec trois terres de jeu.
Oui, il y avait.
Et puis maintenant qu'on sait que l'archevêque, Mgr Éric de Moulin-Beaufort, est un fervent admirateur des sportifs, ça peut être l'occasion de l'avoir parmi nous dans notre équipe de commentateurs.
Et puis peut-être, on espérait aussi avoir Jacques Vendroux, un de ces jours, qui est un ami de Cyril de la Morinerie.
Mais vous savez qu'il sera dans l'émission de ce soir, Jacques Vendroux, Jean-Pierre.
Oui, oui, absolument. Alors,
j'ouvre une parenthèse et je la referme parce que mes tout débuts de journaliste, pour la première fois que je lui parlais devant un micro, en tant que professionnel, entre guillemets, parce que c'était vraiment très important, c'était à Monaco, à Radio Monte Carlo, lorsque Radio Monte Carlo était installé là-bas. Et donc, j'ai passé 3 mois à faire le remplacement de nuit, non pas d'un journaliste, mais d'un animateur. C'est-à-dire, mon rôle, c'était non pas de faire de l'information comme aujourd'hui, mais de parler des chanteurs, des disques, Jacques Brel et autres. Et on m'avait laissé carte blanche. Et je me disais, bon, la nuit, ça va passer, on m'écoute pas trop. Mais j'avais fait comme notre stagiaire aujourd'hui, je m'étais bien préparé, et au lieu de lancer purement et simplement « et maintenant on écoute Jacques Brel », je faisais un petit texte journalistique pour expliquer qui était quoi, qui chantait quoi et comment ça se passait. Donc j'ai passé 3 mois comme ça, c'est ce qui m'a lancé après. Donc je vous souhaite la même chose, parce qu'après on m'a demandé, lorsque j'ai été de retour à Reims, de devenir correspondant de France Inter, de la radio qui était diffusée depuis Strasbourg, avant que les chaînes de télévision s'installent ici dans la région.
Et oui, il faut rappeler, Fernand, que vous avez démarré la radio ici en Champagne-Ardenne et la télé. Donc on a toujours beaucoup de plaisir à vous écouter. Mais vous suivez toujours, on le dit, l'information. Vous vouliez apporter quelques précisions à propos de l'état d'esprit actuel. Vous dites qu'il y a quand même des gens qui sont en train de monter au créneau, toujours à propos de la loi immigration.
Alors bon, ça on redevient si vous voulez, sur des thèmes un peu politiques, même si du côté de ceux qui manifestent aujourd'hui, c'est plutôt du social. Mais quand on a vu ce qui s'est passé dans l'hémicycle et les réactions, en particulier à gauche, on comprend aujourd'hui pourquoi ceux qui ne veulent pas la loi sur l'immigration sortent du bois. Alors il y a la CGT qui monte au créneau, il y a également le Parti socialiste et le Parti communiste qui invitent les uns et les autres à ne pas appliquer la loi qui sera éventuellement promulguée. Alors il y a un certain nombre de présidents de département, comme je l'ai dit hier, qui ont manifesté leur hostilité, ce sont des socialistes et des communistes, pour une simple raison. Ils disent que pour ce qui concerne l'aide personnalisée d'autonomie, il faut quand même faire attention. On ne peut pas du jour au lendemain couper les vivres à tous les immigrés qui arrivent. Il y va aussi d'une sorte d'assistance obligatoire. Imaginez, comme je l'ai expliqué hier, qu'un certain nombre d'immigrés arrivent, soient blessés, soient malades, et qu'ils se pointent dans les hôpitaux des régions. Les médecins, étant donné leur situation, étant donné ce qu'ils ont promis de faire s'ils étaient devenus médecins au moment de leur doctorat, ils ne peuvent pas refuser de soigner. Il y a un problème pour les uns et pour les autres, c'est vrai, d'assistance à personne en danger. Alors ça, c'est en dehors de la loi sur l'immigration. Et la protestation aujourd'hui, c'est un petit peu pour revenir à des valeurs comme celle-là, de protéger les plus faibles. Sur RCF, évidemment, ça doit passer très bien ce qu'on dit.
Alors, avec Arnaud Valadon et Alexis Claudresse, tout à l'heure, on parlait sport en disant que c'est la trêve des confiseurs. Il y a forcément une trêve des confiseurs en politique. Vous n'allez quand même pas, pendant le jour du réveillon, Fernand, suivre...
Il y a une allocution, normalement. Hein.
Une allocution, celle du 31 décembre, ça c'est sûr, sans doute les vœux. Mais enfin, là, vous êtes en repos. Là, vous allez vous ennuyer. Hein.
Non, pas du tout. Un journaliste, quel qu'il soit, même si je suis un journaliste moins actif qu'avant... Un journaliste doit être toujours attentif. Alors, qui plus est, un journaliste politique par les temps qui courent. On peut pas dire, bon, les députés, les sénateurs vont prendre aussi les vacances de Noël, mais vous allez voir, depuis cette loi sur l'immigration, ça va tomber tous les jours. Même si le président de la République a quitté le sol français, il va passer les fêtes en Jordanie avec les soldats. Bon, ben écoutez, c'est bien vu. Il part relativement décontracté. D'ailleurs, hier, il a prononcé un mot qu'on a beaucoup entendu dans d'autres domaines. Il a dit, cette loi sur l'immigration, c'est un nouveau bouclier. Rappelez, les boucliers fiscaux, boucliers contre le Covid,
tarifaires,
etc. Tarifaires. Bon. Et là, on a un bouclier de plus, décidément, là, vous voyez, c'est la grande armée romaine. Donc, on va voir un peu ce qui va se passer par la suite. Alors, évidemment, dans les starting blocks, Édouard Philippe, auquel on a fait allusion tout à l'heure, veille au grain. Quand on parlait d'Arnaud Robinet, qui est un projet d'Édouard Philippe, on se dit, bon, s'il devenait ministre de la Santé, admettons, ça serait un clin d'œil, un signe. Dans la perspective, ou dans 3 ans et demi, quand même, c'est long. Vous voyez, on va pas commencer à faire des élections présidentielles déjà dès maintenant. Ou dans la perspective et dans l'esprit d'Emmanuel Macron, son futur successeur à défendre, ça serait peut-être lui, mais on ne sait pas.
On aura l'occasion, bien sûr, d'en savoir plus, puisque on va se mettre un petit peu en congé avec vous pour 15 jours, hein. Fernand,
on vous retrouvera. Et puis on va éviter de faire des manœuvres de garçon de bain, comme l'a dit le président de la République hier. Vous avez compris ce que ça voulait dire, une manœuvre de garçon de bain?
Expliquez.
Écoutez, une manœuvre de garçon de bain, je me suis penché sur la question. Il faisait allusion à des manœuvres grossières, à des mots un peu lourds, et il s'adressait au Rassemblement national, disant qu'ils font de la manœuvre politique, des manœuvres de garçons de bain, autrement dit que c'était des gens très lourds. Voilà, pas très sympathique, mais bon, c'est une bonne guerre. Hein.
Alors, on vous retrouve dans une quinzaine de jours, Fernand. Arnaud Valadon, on va se quitter provisoirement parce que le magazine régional va continuer et se poursuivre.
Et, j'ai envie de rester avec vous pour le magazine du week-end samedi.
Ah oui.
Est-ce que je peux être avec vous?
Absolument. Eh bien, écoutez, le rendez-vous est pris. Vous serez avec nous.
Je n'ai jamais présenté.
Eh bien, entre 11h et midi et 17h et 18h, demain, on vous retrouve sur l'antenne de RCF Reims-Ardennes.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Et avant de se retrouver samedi, Jean-Pierre, on passe encore une dizaine de minutes ensemble aujourd'hui et encore demain de 18h10 à 19h, notamment pour le magazine régional parmi d'autres programmes. Et tout de suite, on vous emmène au diocèse de Chalon, parler un petit peu du CEDICOM, le service de la communication diocésaine, avec une nouvelle équipe qui a pris les commandes. Christopher Fausten est parti à sa rencontre.
Loïc Marc, bonjour.
Bonjour Christopher.
Délégué épiscopal à l'information au diocèse de Chalon et responsable du CEDICOM qu'on présentera dans un court instant, accompagné autour de la table de Lorena Reyes. Bonjour.
Bonjour.
Accompagné également de Gwendoline Bonnet. Bonjour.
Bonjour Christopher.
Toutes les deux membres donc du CEDICOM qu'on va présenter pendant ces quelques minutes aujourd'hui sur RCF. Loïc Marc, le CEDICOM, service diocésain de la communication. Alors, quelle communication parlons-nous concrètement, Loïc Marc?
Nous parlons de la communication digitale, tout ce qui touche à la partie web, site internet. Également la communication papier, ça peut être le magazine Parvis, les magazines Église de Chalon, et également tout ce qui a touché aux parties affiches que nous pouvons réaliser pour les paroisses comme pour les services diocésains. Mais ce qui est important de dire à nos auditeurs, c'est que nous sommes au service du diocèse et des paroisses.
Quand on parle de toutes ces missions, on parlait du site internet, des événements, des affiches. On est un petit peu en complément du média radio, même si la radio ne fait pas partie du diocèse officiellement sur le papier, c'est un complément. En termes de moyens de communication, on peut le dire, Loïc?
Bien sûr, nous sommes en complément dans le sens où RCF est partenaire du diocèse. J'ai la chance d'animer une émission avec l'administrateur diocésain toutes les semaines. Et je travaille en étroite collaboration avec vous, Christopher, pour l'élection d'actualité locale comme nationale.
Donc, une équipe de trois personnes. Que faites-vous concrètement, Loïc Marc, vous, en tant que responsable? C'est de veiller à ce que l'émission soit accomplie? C'est de participer aux différentes réunions? Comment ça se passe?
Alors, je pense que j'ai un poste de pivot. Comme j'expliquais la dernière fois en interview avec vous, je suis à la fois chef de l'équipe.
Oui.
Donc c'est mon rôle de m'assurer que les délais sont tenus, que les missions sont faites, mais également un côté un peu créateur. On va en équipe ensemble réfléchir à des projets ou à rédiger ensemble des articles. Et également, moi, je vais en réunion au sein de l'évêché ou dans les services annexes, comme aussi les collèges et lycées, à la rencontre des acteurs du terrain pour leur parler de nos services, et un peu un rôle de commercial, on va dire, pour leur dire, voilà, grâce à nous, vous pouvez faire ça, on peut vous soutenir sur telle action.
Et donc, on ne peut pas faire ça tout seul, forcément.
Ah,
il y a une équipe derrière vous, Gwendoline Benet, qui a rejoint également le diocèse,
oui,
le service communication du diocèse de Chalon, en même temps que Loïc, hein, un peu de choses près, on peut le dire.
C'est ça,
donc,
exactement.
Donc depuis début septembre.
Oui.
Depuis début septembre, ça se passe bien?
Très bien.
En charge de quoi concrètement au CEDICOM? Que faites-vous?
Alors moi, je suis chargée de communication digitale.
D'accord.
Donc je vais m'occuper essentiellement du site internet et également de la communication sur les réseaux sociaux.
Donc la partie web, c'est Gwendoline. Autre partie, il y a la version print. Hein. Alors, quand on dit print, on va l'expliquer dans quelques instants. C'est Lorena Reyes, qui est aussi membre du CEDICOM, qu'on connaît déjà, bien évidemment. Elle est là depuis plusieurs années au sein de ce service. La version print, c'est quoi concrètement?
La version print, c'est déjà le PAO. C'est
PAO.
Oui, c'est la production assistée par ordinateur.
D'accord.
C'est toute la partie éditoriale, tout ce qui peut être physique, qu'on peut donner aux gens, c'est un moyen d'évangéliser,
oui,
aussi. Et aussi, le CEDICOM fait un tout petit peu d'édition. On va dire, on est une petite maison d'édition, on ne produit pas beaucoup, on va essayer de faire mieux.
Après, avec toutes les missions qu'il y a, voilà, à mener au quotidien, c'est normal.
Mm-hmm.
C'est normal. Donc, quand on parle de PAO, on va expliquer un petit peu plus dans les détails. Il y a le côté production d'affiches pour les paroisses, pour les événements, tout ça.
Voilà, des bulletins.
Les bulletins.
Des livrets de messe, des livrets de chant, et pour les pèlerinages aussi.
La mise en page. La mise en production aussi du magazine Parvis, qu'on va en parler dans quelques instants, par exemple.
Exactement.
Donc il y a quand même pas mal de choses à faire au quotidien, hein, que ce soit la version print, la version web, et puis autres événements qui sont peut-être un peu plus occasionnels. Mais parmi les, justement, Loïc, les gros chantiers, on vient de le dire, il y a quand même tout ce qui a à mener au quotidien, mais notamment, alors peut-être que Gwendoline peut participer également, c'est la refondation, entre guillemets, du site internet.
C'est un beau chantier.
C'est un beau chantier dans à ce point-là.
Dans le sens où oui, parce qu'on a un site web qui est fonctionnel,
oui,
qui est pratique pour nos utilisateurs, mais qui ne répond pas à l'offre qu'on souhaite proposer à nos paroisses. Donc, pour un développement, demande pas mal de contraintes techniques. Avec Gwendoline, on passe des bonnes journées entières.
Ouais, j'imagine. Ouais.
À trouver des solutions. Donc, en effet, c'est on va pas tout changer. On travaille sur un système qui va être, comment expliquer de façon très simple.
Plus facile à consulter.
Voilà. Plus facile, surtout plus facile à éditer pour que nos paroisses gagnent en liberté d'action et ne passent pas forcément par nous pour mettre leur article en ligne.
En plus de ce que vous faites au quotidien, il y a des trucs exceptionnels qui s'ajoutent dans vos missions. C'est le cas notamment en ce moment de la campagne du denier, on peut le dire, Gwendoline, la campagne du denier qui a été lancée depuis peu de temps.
Oui, c'est ça. Elle a été lancée il y a environ 2 semaines. Et chaque semaine, on sort une vidéo que je monte. On a fait les tournages avec Sylvie Ferrand, le père Thibault-Marie et Béatrice de l'Évêché. Donc moi, je monte les vidéos, je les mets en ligne sur les réseaux sociaux, ce qui permet de rappeler l'importance en fait du denier et d'expliquer aussi aux personnes ce qu'est le denier. Parce que souvent, ils confondent la quête et le denier et ça leur permet de mieux comprendre.
En résumé, Loïc, on peut dire votre mission principale depuis votre arrivée, forcément, ce n'est pas non plus de tout révolutionner, c'est de reprendre ce qui a été fait en cours et de l'améliorer.
On va dire que j'ai eu un départ un peu chapeau de roue, parce qu'arrivé en septembre, pour avoir un évêque qui part en novembre...
Oui, l'arrivée tombe dans un moment compliqué, on peut le dire.
Point d'anecdote, quand je suis arrivé ici, Monseigneur m'a dit, j'ai plein de projets, on va se faire un calendrier sur l'année. On me dit, c'est très bien, c'est calé. Ben voilà. Bon, 3 mois plus tard, il n'y a plus de capitaine dans le bateau. Bon, ben, on va se débrouiller.
Avant de nous quitter, Gwendoline, juste une petite question. Qu'est-ce qui a donné envie, justement, de participer à cette aventure CEDICOM et notamment ce côté digital du diocèse? Qu'est-ce qui vous a attiré concrètement dans cette mission?
C'est un peu un tournant dans mon parcours professionnel, dans la mesure où, à la base, j'étais éducatrice. Donc, travaillais dans le social. Donc j'étais
ça change complètement
et puis avec les années, travailler dans le social, on va pas se le cacher, c'est quand même quelque chose de très compliqué.
Oui.
Donc j'ai décidé de faire une reconversion professionnelle et donc j'ai fait une reconversion en tant que web design, enfin dans le web design, chargée de communication et le graphisme.
Loïc, la même chose, ça a été un tournant aussi. Alors je sais qu'on a déjà eu cette interview il y a quelques semaines, voilà, sur le côté nouveau DUI du diocèse de Chalon. Si je me souviens bien, il y avait le tourisme auparavant. Hein.
Avant, je faisais des voyages, maintenant je vends Jésus.
Voilà.
Non, et puis je pense que c'est à la fois, j'ai une joie d'avoir une aussi bonne équipe avec moi.
Oui.
J'ai quand même 2 collaboratrices qui sont extrêmement efficaces, qui sont joyeuses et pétillantes. Je pense que ceux qui ont cette DICOM verront le côté un petit peu joie de vivre.
On le confirme, nous, RCF. On n'est pas très loin, on est des voisins.
Et à la fois, je pense qu'on a envie d'avancer ensemble.
Oui. Lorena, cette nouvelle équipe, parce que bon, Lorena est là depuis quand même plusieurs années, c'est quand même un changement, ça va? Ce changement se passe bien?
Oui, maintenant, je suis la plus vieille.
Ah oui, maintenant qu'on le dit, oui. En tout cas, la plus ancienne au sein du CEDI comme ça.
La plus âgée aussi.
Et le plus âgée, bon, ça, je me permettrai pas cette indiscrétion. Merci en tout cas à tous les trois, Loïc Marc, Gwendoline Bonnet et Lorena Ries, d'avoir pris ces quelques minutes aujourd'hui sur RCF. On vous souhaite une bonne continuation, une bonne fête de fin d'année, parce que les fêtes approchent. Bonne fête de fin d'année et puis bon courage pour vos missions et votre parcours à tous les trois.
Merci à vous, Christopher.
Merci beaucoup. Merci.
Et l'actualité du diocèse de Chalon est à retrouver sur le site chalon.catholique.fr, sa page Facebook Diocèse de Chalon et bien évidemment sur les ondes de RCF. On entendait Christopher qui souhaitait de bonnes fêtes de fin d'année à toute l'équipe. C'est vrai que c'est la période et on le souhaite une première fois aujourd'hui à tous nos auditeurs, parce que même si on sera là demain, on sait que certains vont peut-être anticiper des départs en vacances, etc. C'est votre cas, Fernand. On l'a dit tout à l'heure avec Jean-Pierre. Vous allez, on va vous laisser, nous, en tout cas à RCF, ici pendant 15 jours. Donc on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, en particulier un joyeux Noël.
Vous aussi, joyeux Noël et joyeux nouvel an, en espérant que l'actualité politique qui restera en sommeil. Elle ne va pas s'arrêter, croyez-moi, même pendant les fêtes. Ça va continuer. Et on aura beaucoup, beaucoup à dire. Vous allez voir, on va aller de surprise en surprise.
On vous retrouvera en 2024 avec grand plaisir. Fernand Arnaud Valadon aussi, vous passerez nous faire un petit coucou l'année prochaine maintenant.
Avec plaisir. Est-ce que la joie se partage toujours ?
La joie se partage toujours. On est toujours là sur RCF.
Et bah de
et
très bonnes fêtes de fin d'année. Joyeux Noël.
Un très joyeux Noël, Arnaud Valadon. Kylian, vous êtes avec nous demain. On aura l'occasion de le dire une ultime fois. Et puis Jean-Pierre, pareil, vous nous accompagnez non seulement demain, mais aussi tout au long de la semaine prochaine. Donc on aura l'occasion de vous retrouver
absolument,
aussi à l'intérieur du magazine
avec
du week-end.
Des invités.
On patiente un petit peu avant de vous souhaiter un joyeux Noël.
Ah oui, on patiente un petit peu.
Puis on salue tous nos invités en studio.
Les invités, bien sûr. Alors nous avons des invités.
Rapidement, Jean-Pierre.
En studio qui sont avec nous. On va donner les prénoms, il y a Céline, il y a
Michel
bien sûr, et puis
Marie-Claude.
Michel, Marie-Claude, Céline, et puis bon, c'est des trios de choc, et puis la joie se partage en effet.
C'est mieux qu'à RTL. Hein.
C'est mieux qu'à RTL.
Dans quelques instants, l'information nationale, c'était Fabrice Gironnet à la mise en onde. Merci de votre fidélité.